Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Et oui, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Objectif Startup, l'émission consacrée aux startups, pour les startups. Je suis aujourd'hui avec Thibault Lemoine, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Directeur des programmes d'incubation chez Inco Incubators.
Exactement.
Si je l'ai bien dit.
C'est ça.
Alors, expliquez-nous déjà. Donc aujourd'hui, émission un petit peu différente. Bon, on a déjà reçu des personnes, des directeurs dans des incubateurs. Là, vous accompagnez les startups. On va en parler justement.
Ouais.
C'est votre métier. Alors déjà, présentez-nous Inco Incubators.
Ouais, complètement. Donc effectivement, je suis pas un entrepreneur, mais mon métier c'est d'accompagner des entrepreneurs. Et donc je le fais chez Inco Incubator. Inco Incubator, c'est une structure d'accompagnement qui vise à créer des lieux où on va pouvoir donner des outils sur un certain temps à des entrepreneurs, et plus spécifiquement des entrepreneurs à fort impact social et environnemental. Donc ça, c'est notre focus chez Inco.
C'est votre ADN, en fait.
C'est notre ADN, exactement. C'est nous, c'est notre fil rouge, c'est notre mission. On a été créé il y a une dizaine d'années. On est une organisation française par Nicolas Hazard. Et à la base, nous, on est un fonds d'investissement. Notre métier initial, c'est de l'investissement, on s'en appelle l'impact investing. Donc on finance des startups, des entreprises, des ETI, des PME, toute taille, qui vont combiner rentabilité économique et impact sociétal et environnemental. Et ça, c'est notre premier métier, on appelle ça Inco Ventures. Et ensuite, on a créé en 2014 une activité donc, d'incubation, Inco Incubator, je viens d'en parler, où on a voilà, plusieurs programmes d'incubation. En France, on en a une dizaine sur tout le territoire. Et puis, on est aussi présent sur tous les continents. Et puis, plus récemment, on a créé une troisième activité, une activité qui s'appelle Inco Academy. Et Inco Academy, c'est un organisme de formation qui vise à former là des individus pour les aider à travailler dans l'économie de demain sur des nouveaux métiers. Donc on a d'une part deux activités pour accompagner à l'émergence de ces nouvelles entreprises plus durables, plus inclusives. Et puis d'autre part, on accompagne là des individus qui sont sans emploi, éloignés de l'emploi, à pouvoir travailler sur ces métiers créés par ces nouvelles entreprises dans l'économie inclusive et durable.
Donc au final, c'est assez complet.
C'est ça, exactement. On a essayé d'avoir une offre, une proposition de valeur qui est sur l'ensemble de la chaîne. On va jusqu'au financement et puis jusqu'à la formation des employés qui vont aller travailler après dans ces entreprises.
En 2018, vous avez décidé de vous associer à deux autres gros poissons.
Ouais.
Pour créer un beau bébé, Prevent to Care Lab.
C'est
pouvez-vous nous expliquer
exactement
qui sont vos partenaires du coup?
Exactement. En fait, donc Inco, nous, on est un acteur de l'accompagnement des startups à impact social et environnemental. Donc, on intervient sur tous les champs de l'intérêt général. Et en 2018, même en 2017, on a rencontré la Fondation Ramsay Santé. Donc, c'est la fondation d'un grand groupe européen privé, d'hospitalisation privée. Donc c'est des hôpitaux qui sont présents voilà sur tout le territoire et puis et en Europe et donc ensemble on a un peu réfléchi, on a brainstormé et on a souhaité unir nos forces. Eux, leur expertise c'est la santé et le mission de la fondation Ramsay Santé c'est la prévention santé, et nous on s'est accompagné des startups, donc on a uni nos forces pour pouvoir créer un programme qui s'appelle le Prevent to Care Lab. Et donc le Prevent to Care Lab c'est le premier accélérateur qui accompagne l'émergence d'innovations dans le domaine de la prévention santé en France et aujourd'hui même au-delà de nos frontières, puisqu'on est présent en Europe et on en parlera tout à l'heure.
Donc le seul en France dans la prévention santé.
C'est ça. Alors c'était la spécificité en 2018. Il y a des incubateurs dans la medtech, dans la biotech, ouais. C'est plein de sphères qui sont spécifiques à la santé. Et en fait, la prévention santé, c'est un domaine plus large qui peut être très dans le médical, mais aussi sur des choses qui sont beaucoup plus dans notre quotidien. C'est pas forcément que à l'hôpital en fait qu'on fait de la prévention santé.
C'est avant
santé.
En fait.
Exactement. Et donc on a été les premiers à porter ce programme. Aujourd'hui, c'est des thématiques qu'on retrouve dans pas mal, qu'on retrouve de plus en plus, et tant mieux. Nous, c'est ce qu'on veut pousser aussi. Mais on était le seul qui est dédié sur cette thématique de la prévention santé.
Alors, est-ce que vous pouvez du coup nous citer quelques startups que vous accompagnez justement, qui font de la prévention santé, et nous expliquer un petit peu plus, peut-être plus concrètement, ce que c'est par exemple la prévention santé?
Complètement. Alors, la prévention santé, en fait, maintenant on est un peu plus au fait de ce que c'est. On a eu des exemples concrets, se laver les mains, mettre son masque, etc. Et donc nous, on accompagne des startups qui vont pouvoir essayer de faire avancer ce sujet, de créer des nouveaux outils. Donc par exemple, exemple, on accompagne en ce moment une startup qui s'appelle Quit, qui a développé une application avec derrière de la recherche et de la science comportementale pour accompagner des personnes qui dans leur démarche de sevrage tabagique. Et aujourd'hui, ils ont plus de 16 millions d'utilisateurs. Ils ont réussi à accompagner un grand pourcentage de personnes vers la fin du tabac. Et c'est des outils qui permettent de ne pas forcément utiliser de médicaments ou d'avoir quelque chose à la maison, accessible, simple, qui permet de faire plus de prévention. Donc ça, c'est un exemple, une application mobile sur des addictions. Du coup, on a des startups, par exemple, une startup qui s'appelle D'un seul geste, qu'on a en compagnie il y a 2 ans, qui a été développé par un entrepreneur qui s'appelle Emmanuel Bourset. Et lui, en fait, il a voulu réinventer la formation aux gestes qui sauvent, aux gestes de premier secours. Donc ça, on les connaît tous, on a plus ou moins fait quelque chose, soit avec la Croix-Rouge ou les pompiers, mais aujourd'hui, on ne sait pas forcément, on ne saurait pas le faire. Moi, aujourd'hui,
le mettre en pratique, c'est plus compliqué.
Si on a un problème ici, moi, je ne suis pas sûr de pouvoir agir. Et en fait, lui, il a créé un outil en fait, de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui va permettre d'utiliser nos émotions lors de la formation et d'avoir un ancrage plus important dans l'apprentissage. Ce qui fait qu'on apprend en situation quasiment réelle, parce qu'on a un casque avec tout ce qui peut se passer en situation réelle. Et le jour où ça se passe, en fait, on est tout de suite, il y a notre cerveau, il déclenche un truc et il est beaucoup plus actif. L'autre avantage, c'est que ça permet de faire une formation en 1h30 contre 2 journées qui sont bloquées quand on fait ces formations classiques aujourd'hui. Et donc, ce qui permet de pouvoir facilement le déployer dans les entreprises. Et aujourd'hui, il y a des obligations légales pour les entreprises de former leurs salariés, notamment dans le service public. Il y a un horizon assez court avant lequel tous les salariés du service public doivent avoir fait cette formation. Et donc, au-delà de mettre en place ces obligations, après, il faut des outils pour le faire. Et donc, d'un seul geste, c'est un formidable outil pour pouvoir faire ça. Et peut-être un dernier exemple, c'est Damae Medical, donc une start-up qui a été créée par Anaïs Barut et qui a développé un dispositif médical qui permet de faire du dépistage des mélanomes. Donc c'est tout ce qui est cancer de la peau. Et aujourd'hui, alors il y a plein de sujets, il y a un certain nombre de... Enfin, c'est un vrai sujet, hein, le cancer de la peau, c'est assez difficile à détecter.
Il faut aller d'ailleurs. Se faire dépister.
Exactement,
régulièrement,
on hésite un peu à aller chez le médecin, on se pose des questions.
N'ose pas.
Quand on va chez le médecin, si jamais il y a un doute, il faut faire une
biopsie.
Une biopsie, exactement. Et donc c'est très lourd, ça prend du temps. Donc on hésite aussi à faire ces démarches approfondies, même le médecin. Alors du coup, elle a développé un outil qui permet de prendre une photo du derme,
du grain de beauté,
de la peau. Et donc d'éviter d'avoir à faire cette biopsie, donc d'avoir une vue en 3D du grain de beauté en question, si jamais c'est un grain de beauté. Et donc ça permet d'avancer considérablement dans la lutte contre ces cancers, de pouvoir détecter beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, d'enlever ce doute qu'on peut avoir avec la biopsie.
Et c'est vrai que le mélanome, plus on le prend tôt, plus on a de chances de guérir.
Ouais.
Donc ça, ce sont des startups que vous accompagnez, donc startups innovantes.
Ouais.
Alors justement, on va parler de l'accompagnement. Comment ça se passe ? Donc déjà, dans quelle ville êtes-vous situé en France et à l'étranger ?
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on a commencé donc à Paris en 2018. Dès 2019, dès la deuxième édition, on a un second partenaire qui nous a rejoint. J'en ai pas parlé tout à l'heure. C'est la fondation, le fonds de dotation Pfizer Innovation France, donc la fondation du groupe Pfizer France que tout le monde connaît, je pense aujourd'hui très bien. Et donc, avec leur arrivée, on a pu déployer de nouvelles expertises et accompagner aussi des startups sur d'autres territoires. Et donc, on a ouvert une antenne à Lyon. Aujourd'hui, on accompagne des startups sur tout le territoire français. On a vraiment des startups qui viennent de partout. Et on a 2 lieux d'incubation à Paris et à Lyon où elles peuvent venir travailler, où nous, on organise des événements, des ateliers, des choses comme ça. Et donc ça, c'est en France. Et puis, en fait, depuis cette année, on a ouvert un nouveau territoire, donc on appelle les Nordiques. Les Nordiques, c'est en plus spécifiquement la Suède et le Danemark, où on accompagne 4 startups. On commence doucement pour accompagner des startups qui sont sur cet autre marché, qui est le marché Nordiques, dans le domaine de la prévention santé.
D'accord. Et pourquoi les pays nordiques ? Parce que là-bas, c'est à la mode, les incubateurs ?
C'est une bonne question. Alors, effectivement, c'est des... on va dire, relativement petit marché quand on pense par rapport à la France. En revanche, il y a beaucoup d'innovations. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. C'est un écosystème qui est très riche, qui est très dense. Et en particulier dans le domaine de la santé, c'est le cœur, le névralgique européen en termes d'innovation dans la santé. Et plus spécifiquement dans la prévention santé, parce que nous, on n'est pas juste un acteur de la santé. En tout cas, la Suède, c'est un pays qui est très novateur, très en avance dans son système de santé. C'est-à-dire que tout leur système de santé, il est créé autour de la thématique de la prévention. C'est-à-dire que chaque individu en Suède, il a déjà un solde prépayé de consultation. Et donc, en fait, tout le monde a l'intérêt à ce qu'il y ait plus de prévention et que économiquement, c'est beaucoup plus intéressant de traiter les maladies avant de.
Mieux vaut prévenir que guérir.
Exactement.
Donc, Lyon, Paris, les pays nordiques. Ouais. Comment se déroule votre accompagnement ?
Alors, l'accompagnement, c'est très simple. Hein. C'est un programme d'incubation. Pour ceux qui ne connaissent pas exactement comment ça fonctionne, nous, en fait, on sélectionne des startups chaque année. On fait un appel à projet. Et ensuite, on organise des jurys avec nos partenaires et puis des acteurs de l'écosystème pour les sélectionner. Il y a des pitchs, etc.
Et vous ensuite, en sélectionnez combien, juste en termes de pourcentage ?
Chaque année, on grandit, on rajoute des territoires. Donc là, cette année, on a 30 startups et aussi des associations qu'on accompagne. Donc, c'est 30 structure. Et depuis le début, on a dû en soutenir plus de 80, quelque chose comme ça.
D'accord.
Et donc après cette sélection, l'accompagnement à proprement parler commence. Et donc nous, ça dure 9 mois. Et donc pendant ces 9 mois, on a une première phase avec un diagnostic. On essaie de comprendre les besoins de ces startups qui sont très différents, très spécifiques aussi à des marchés qu'ils peuvent avoir. Le but, c'est de faire une photo à l'instant T, de comprendre de quoi elles ont besoin pour créer après une feuille de route d'accompagnement.
C'est un peu le médecin généraliste, quoi.
Exactement, ça peut être ça. On peut faire l'analogie. Et ensuite, on les accompagne à la fois avec des moments qui vont être en collectif, parce qu'on accompagne une promotion de start-up. On ne fait pas juste du conseil individualisé à chacune des start-up. Et on a aussi des moments individualisés parce qu'elles ont toutes des spécificités propres. Ces moments collectifs, ça va être des ateliers sur des choses très classiques pour des startups, hein, sur la levée de fonds, sur des sujets de comptabilité, comment faire un business plan, comment vendre, des choses comme ça. Et puis des choses qui vont être plus propres au domaine de la santé, parce qu'il y a une réglementation spécifique en Europe, il faut faire des études cliniques, il y a vraiment un chemin réglementaire qui est hyper compliqué à comprendre.
J'imagine quand on n'est pas là-dedans,
soit on a des entrepreneurs qui sont eux des usagers qui ont remarqué qu'il y avait un problème dans le système de santé et qui se disent bah, il faut que je le résolve, mais alors là effectivement les classes, dispositifs médicaux, les marquages CE, c'est vraiment très compliqué. D'autre part, on a nous des médecins qui vont eux connaître un peu ces domaines-là, mais qui sont pas des entrepreneurs, donc ils vont devoir aussi apprendre à adopter cette démarche agile de comment faire beaucoup avec peu. Et donc c'est sur ça en fait qu'on essaye de jouer. On essaie de les accompagner aussi entre eux pour qu'ils se partagent des bonnes pratiques.
Et alors les startups que vous accompagnez, j'imagine qu'elles n'en sont pas au même stade. Quel est le premier stade que vous accompagnez? Comment ça se passe en fait?
Ouais, alors il y a une terminologie très précise liée au secteur médical, donc je ne vais pas forcément détailler parce que ce ne sera pas forcément parlant, mais nous on accompagne les startups à tout stade. Plus spécifiquement, on va pouvoir sélectionner des startups à partir du moment où elles ont à minima un prototype, un MVP, le minimum viable product. C'est des choses qui vont être requises parce qu'il faut pouvoir travailler dessus, et si c'est juste une idée, c'est compliqué. Et on a des startups qui vont être avant ce qu'on appelle le product market fit, donc avant d'avoir complètement rencontré leur marché. Et donc ça c'est cette phase là qui est c'est un éventail très large, mais c'est ça qui est intéressant, parce que du coup nous on a des startups qui sont très avancées, qui ont déjà levé des fonds par exemple, qui vont pouvoir donner des conseils à des entrepreneurs un peu plus jeunes, et puis ceux un peu plus jeunes ils vont pouvoir aussi donner des conseils et faire des retours qui vont, parce que des entrepreneurs un peu plus avancés vont parfois avoir un peu oublié de ce qu'ils faisaient quand ils n'avaient rien, et donc cette hétérogénéité en fait, ça crée de la richesse dans le programme d'accompagnement.
Et 9 mois, c'est pour toutes les startups?
C'est ça, c'est 9 mois, parce que comme ça crée une urgence d'accompagnement.
Pourquoi 9 mois?
Parce que
c'est le bébé qui.
C'est ça, c'est le temps c'est le temps d'incubation. Ouais. En réalité, c'est une durée qu'on a définie pour l'ensemble de nos programmes chez INCO, mais qui peut dépendre hein, en fonction des sujets. Parce que 12 mois, c'est très long. C'est intense, un programme d'incubation. Et en 6 mois, notamment là, dans ce cadre de programme, il y a une dernière brique hein, dont je n'ai pas parlé, qui est le lien avec ses partenaires, hein, Ramsay Santé, la Fondation et Pfizer Innovation France. Et ça prend du temps de pouvoir mettre en place des choses, de faire des expérimentations. Donc en 6 mois, on n'a pas le temps, on peut lancer des choses, mais on ne voit pas les résultats. Donc on a voulu voilà, avoir ce temps-là pour pouvoir créer un sentiment d'urgence et en même temps laisser le temps aux choses de se faire, à des expérimentations, des pilotes, des tests, de se faire aussi avec ses partenaires qui sont là pour aider, ouvrir leurs portes, pour aider les entrepreneurs.
Et une fois que vous les lâchez dans la nature, comment ça se passe pour ces startups ?
L'objectif, c'est que ça se passe bien. Nous, on les accompagne non pas pour qu'elles soient dépendantes de nous, mais justement pour qu'elles soient autonomes, donc les aider à grandir, à franchir un palier. Et donc nous, on a plus de 90% des startups qu'on accompagne qui, c'est pas rien, sont toujours en vie après nos programmes d'incubation, hein, parce que la meilleure définition d'une startup, c'est l'échec.
Bien sûr.
Donc c'est ce qu'on essaye d'éviter. Et ensuite, mais il y a plusieurs choses. Nous, il y a des startups qui vont après rester dans nos locaux, mais on va les accompagner beaucoup moins profondément parce qu'on a une autre promo à accompagner.
En gros, vous leur fournissez uniquement un lieu de travail.
Voilà, des lieux, et puis on peut les mettre en relation,
échange,
cas
ouais.
par cas, exactement. Et après, on a des startups qui vont être accompagnées par d'autres incubateurs, et ça, c'est hyper important. Dans l'écosystème des incubateurs, on est très connectés, parce qu'en fait, on a les mêmes objectifs. Et nous, on accompagne des startups à des phases qui vont être différentes. Et donc, elles vont être probablement accompagnées ailleurs avant nous et ailleurs après nous. Et parfois, voilà, c'est important qu'elles puissent voir d'autres profil d'accompagnement, parce que ça leur permet de s'ouvrir à d'autres challenges, à être confronté à d'autres personnes, avoir d'autres idées et d'autres contradictions.
Vous parliez du jury tout à l'heure, alors ouais. comment ça se déroule ? Comment vous validez ou non l'accompagnement pour une start-up ?
Alors, il y a un process, nous, de candidature et de sélection qui est assez simple. En fait, nous, on lance un appel à projet. Donc, les start-up ou les associations qui postulent à l'incubateur remplissent un dossier en ligne. En général, on les rencontre ou depuis le Covid, on fait des visios pour creuser, comprendre un peu leur projet et surtout leurs besoins. Et on essaye de voir un certain nombre de critères. Hein. On va regarder l'équipe. C'est évidemment le plus important sur des projets très jeunes. On va regarder évidemment l'impact de la solution proposée et aussi le potentiel de marché parce que c'est important d'avoir des projets qui ont un impact. Nous, on est là pour ça. Le but, c'est de changer le système de santé avec plus de prévention santé, mais ça ne fonctionne pas si on fait des projets qui n'ont aucune rentabilité ou qui ne rencontreront pas un marché. On peut avoir la meilleure idée, si derrière elle n'est pas utilisée, elle ne fonctionne pas, en fait ça ne marchera pas. Donc on regarde tous ces critères là et ensuite on fait une sélection qu'on présente en jury. Et donc le jury, c'est des collaborateurs, des groupes partenaires, la Fondation Ramsay Santé, de Pfizer Innovation France et d'INCO, plus des acteurs. On prend par exemple des anciens entrepreneurs, des acteurs de l'écosystème. Et ils vont voir pitcher, là on a vu pitcher 50 startups cette année, pour après faire une sélection. On a des critères et à partir de ces critères, voilà, on fait une sélection donc là, de 30 startups qui ont intégré cette quatrième promotion du Prix N2Car Lab.
Donc sur 50, enfin sur les 30 que vous avez pris, il y en a eu 50
c'est
qui
ça,
se sont présentés.
Et avant, on a dû avoir 150 candidatures, quelque chose comme ça.
D'accord, oui, donc
il y a du monde.
Il y en a des startups dans la prévention santé. On va parler aussi de la nutrition.
Ouais.
Juste une petite aparté. Nutrition, vous êtes rendu compte que ça prend de la place dans la prévention santé.
Ouais, en fait, il y a deux choses. Effectivement, c'est un vrai sujet, la nutrition santé. Ouais. Donc ça, on le savait depuis le début. Quand on parle de prévention santé, il y a différents thèmes. On va parler de dépistage, j'ai donné des exemples. On va parler d'addiction, on peut parler de santé sexuelle. Et évidemment, l'alimentation, la nutrition, c'est un facteur majeur. Mais on s'est rendu compte que déjà, on avait un certain nombre de startups, qu'on avait besoin d'expertise supplémentaire pour les accompagner et que c'était potentiellement aussi des besoins qui étaient différents. C'est pas forcément très médical, même si c'est des startups qui développent des projets au service de la santé. Ça veut pas dire qu'elles ont un dispositif médical, qu'elles ont des sujets de réglementation. Donc on a créé en 2020 et on l'a lancé en 2021 une antenne du Prix N2Car Lab qui s'appelle le Nutrition Lab. Donc c'est assez simple, hein, c'est la même chose mais sur la nutrition. Et on l'a fait avec Donc les partenaires historiques, la Fondation Ramsay Santé, Pfizer Innovation France, et un nouveau partenaire qui est le groupe Elior, donc un acteur leader européen de la restauration collective et des services, qui du coup a toute une expertise dans la nutrition. C'est les premiers à avoir lancé le Nutri-Score dans les cantines, par exemple. Et donc avec eux, on a pu créer cette marque dédiée et accompagner plus spécifiquement avec un parcours qui est adapté des startups dans la nutrition santé, donc qui utilisent l'alimentation pour résoudre des problèmes de prévention santé. Et donc j'ai pas donné d'exemple là-dessus tout à l'heure, mais par exemple l'an dernier on a accompagné une startup qui s'appelle Umiami, qui a développé une technologie très innovante, c'est difficile à décrire, de substitut végétal à la viande. Donc ça, on en connaît, on entend parler de plein d'acteurs aujourd'hui, et eux, ils ont vraiment une technologie qui est unique parce qu'ils arrivent à créer de la texture. Donc pour l'avoir goûté, on a l'impression visuellement et gustativement que c'est de la viande. C'est pas un truc un peu spongieux, quoi. Et ça, c'est assez novateur. C'est des jeunes qui sortent d'AgroParisTech qu'on crée ça.
Et du coup, c'est quoi,
qui font du poulet, par exemple.
Mais c'est fait avec quoi, du coup? C'est des,
et donc c'est
des
une,
insectes.
C'est fait avec. Alors exactement, c'est des ingrédients qui sont naturels. Il n'y a pas de, il n'y a pas de produits chimiques ou étranges à ajouter. Donc c'est simplement dans la technologie de création de la viande.
Ils ont vraiment misé sur le goût et.
Exactement. Ou en fait aujourd'hui, si vous voulez, pour vraiment rentrer dans le détail, quand on crée des substituts de la viande, on utilise une technologie dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est de l'extrusion, qui va un peu détruire les protéines et donc on va avoir des produits qui vont être végétaux, mais nutritivement qui vont être très 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 mauvais, avec des ajouts et pas beaucoup de protéines, pas beaucoup de valeurs nutritionnelles, alors que c'est le contraire de ce qu'on veut quand on mange du végétal. Alors du coup, ils ont réussi à créer un système qui fait qu'ils sont pas obligés d'utiliser cette méthode et qui conserve toutes les qualités nutritives. Donc je pense qu'on va retrouver du pois chiche, des choses comme ça, des légumineuses qui sont des aliments à haute valeur nutritionnelle. Donc cette start-up là, on l'a accompagnée l'an dernier. Et aujourd'hui, ils ont levé 30 millions d'euros pour créer une usine se déployer à grande échelle. Donc, ils ont réussi à convaincre des acteurs, des investisseurs pour aller loin. Et donc, on est assez fiers d'avoir pu, nous, les accompagner, leur présenter des chefs qui ont pu critiquer leur texture, leur goût et quelque part avoir pu les aider à passer cette étape.
Est-ce qu'on peut dire que depuis la crise sanitaire, les Français et même les Européens mettent vraiment, attachent beaucoup plus d'importance à la prévention santé et à la nutrition.
Voilà, moi j'ai pas les sondages, donc.
Mais vous, est-ce que vous le ressentez?
Ça va être que mon avis, mais effectivement, nous, quand on crée le Print to Calab en 2018, on a l'impression d'être un peu un ovni parce qu'il y a. On parle de medtech, de biotech, mais on parle pas forcément beaucoup de prévention santé, en tout cas dans l'innovation. La prévention santé, c'est des affiches qu'on met dans les lycées pour dire dépistez-vous, des choses comme ça. Et de plus en plus, on voit qu'il y a beaucoup plus. Enfin, nous, on a de plus en plus de candidatures, il y a de plus en plus d'acteurs qui en parlent. Et puis la crise Covid, c'est un vrai changement de paradigme. C'est d'un coup, on a ce réflexe de se laver les mains, on a ce réflexe de mettre un masque, et on se rend compte que le meilleur moyen d'éviter une maladie, c'est de faire de la prévention.
Bien sûr.
Et donc c'est une vraie prise de conscience. Et nous, on le voit tous les jours parce qu'il y a de plus en plus de projets dans ce domaine et que ça a ouvert de nouveaux champs d'innovation pour des startups.
Comment vous imaginez l'évolution justement de Prevent to Care Lab? Comment ça va se passer? Donc, est-ce que d'autres villes vont être, enfin, vous allez vous déployer dans d'autres villes, d'autres pays?
On a plein d'idées, évidemment. Ce programme, nous, depuis le début, on a eu de cesse avec les partenaires de le faire grandir. Donc nous, on souhaite continuer à être dans cette démarche, accueillir de nouveaux acteurs qui peuvent avoir aussi une autre expertise à apporter et avoir peut-être des focus sur d'autres thématiques. Cette année, on commence à traiter plus spécifiquement la santé environnementale. Donc le lien entre l'environnement et la santé, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc on teste et on voit l'intérêt. Est-ce que c'est utile? Est-ce que nous on a des apports là-dessus? Évidemment, grandir à l'international, c'est un premier test aujourd'hui avec 4 startups dans les pays nordiques. Donc on pense que ce serait intéressant de pouvoir déployer ce programme aussi sur d'autres territoires. Et puis le Prevent to Care Lab aujourd'hui, c'est pas que de l'incubation de startups. On accompagne des associations. On fait un prix dans 5 régions de France pour des associations dans la prévention santé. Donc on veut vraiment être une plateforme qui favorise, qui contribue à l'émergence de nouvelles innovations. Et donc ça, il y a des milliards de façons de le faire. Donc si vous avez des idées, nous on est ouverts. En tout cas, on est prêt à grandir et à déployer ce programme partout où il sera utile.
En tout cas, c'est un beau projet. Ouais. Merci infiniment, Thibault Lemoyne, d'être venu sur le plateau d'Objectif Startup.
Avec plaisir.
Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.